Alors, pour la fidélité, il faut savoir à quoi on est fidèle. Et à quoi on s'engage. On s'engage à quelque chose. Ce quelque chose, c'est se donner l'un à l'autre. En personne. Et la personne humaine est constituée d'une âme, d'un esprit. La différence entre l'âme et l'esprit, ce sont des différences plus philosophiques ou spirituelles, de considérations spirituelles. L'âme, c'est ce qui est plus dans l'émotion, dans les passions, et l'esprit serait plus dans les considérations abstraites et l'intelligence, et les volontés très élevées. En fait, moi, je ne fais pas vraiment de différence. Et cette âme anime un corps, et par rapport aux autres animaux, nous avons un esprit immortel qui fait que notre vie animale est commandée par cette vie spirituelle. Et je vous donnais comme élément, un argument naturel, le fait étonnant que les petits des hommes mettent des années à être éduqués et à être autonomes, alors que les petits des animaux, au maximum, c'est quelques mois. Mais l'homme, alors là, un enfant de 3 ans, si vous le laissez, il meurt. 4 ans aussi, 5 ans, oui. 7-8 ans, il y en a qui se débrouillent dans les poubelles du Caire, vous voyez, mais c'est quand même pas terrible. Oui. Et donc la nature humaine a une tranche avec la nature animale, avec le règne animal. Et ce qui fait que cette fidélité, elle est ancrée également dans cette nature spirituelle qu'est la nôtre. Qui fait que, principalement, et j'insiste, on se donne l'un à l'autre, et si on s'unit corporellement, et si on ne s'empêche pas d'avoir des enfants, eh bien l'enfant il arrive. Sauf si on est malade, si on est stérile. Vous voyez? Mais à ce moment-là, l'amour est personnel, on se choisit, mais on se choisit, sauf un amour extrêmement spirituel, où on ne poserait pas d'acte sexuel et on resterait l'un à côté de l'autre, vivant l'un avec l'autre, en considérant que notre vie spirituelle l'emporte sur tout acte d'affection corporelle. Bon. Enfin, il faut le faire, enfin, c'est pas évident, n'est-ce pas? Mais si justement nous suivons l'inclination naturelle, avec ses désagréments parfois, n'est-ce pas, avec le fait mais ça on le verra plus tard, que l'acte sexuel n'est pas toujours parfaitement agréable, corporellement, il n'est pas toujours idéal, voyez, mais parce que justement c'est de l'ordre de ce qui est fragile. De l'ordre de ce qui est corporel, l'acte sexuel lui-même. Et de l'ordre de la santé, de l'ordre de l'hygiène même, corporelle. Eh bien, cela, c'est au-delà de l'animal, puisque ça va aboutir, possiblement, à la venue d'un autre être avec une âme immortelle. Donc, ça vaut bien la peine, voyez, de dépasser, les désagréments, ou même au contraire de parvenir à des actes conjugaux qui se passent très bien, parce que, à terme, c'est la possibilité d'un être nouveau. Et donc, la fidélité est pas seulement une fidélité de personne à personne, mais c'est une fidélité par rapport à l'éducation de l'enfant qui va naître de notre amour mutuel. La fidélité n'est pas seulement par rapport à l'accord que nous avons fait de vieillir ensemble, et de nous aimer, et de nous comprendre, et de nous entraider profondément, mais aussi d'assurer à l'enfant un papa et une maman pendant des années. Au point que même l'objet de la fidélité est d'assurer à l'enfant, au moins jusqu'à ce qu'il soit sevré et autonome dans ses mouvements, d'être ensemble. 12-14 ans, vous voyez. Je me marie pour 12-14 ans, simplement. Pourquoi? Ah ben, dès que. Alors, à chaque nouvel enfant, vous en prenez pour 12 ans. Oui. 12-14 ans. Enfin, si vous laissez votre enfant à 12-14 ans autonome, vous aurez peut-être des ennuis de justice. Parce qu'en Occident, de nos jours, on peut même obtenir de condamner ses parents qui ne nous payent pas des études après le bac. Donc, c'est plus 18 ans. Oui. Unité. L'unité, c'est le fait de ne pas se marier avec une autre personne. Donc, les musulmans, quand ils se marient avec un chrétien, doivent considérer que Mahomet se trompe dans le Coran de redonner la permission de la polygamie. Et que ce prophète, donc, 600 ans après Jésus, n'a pas bien écouté l'archange Gabriel. Enfin, s'il se trompe sur quelque chose d'aussi important, c'est qu'il doit se tromper sur autre chose. Mais ça, bon, comment dire, vous n'avez pas d'attachement particulier à l'islam? Non, je peux y aller. Voilà, bon. Donc, c'est l'unité, c'est... là, ça touche plus le couple. Ça touche aussi l'enfant, parce que l'enfant aime avoir la paix dans le foyer. Or, les femmes entre elles sont jalouses. Et l'homme, ah ben les femmes de premier rang, second rang, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, normalement, on s'arrête à quatre, et même, on ne doit pas aller à quatre si on n'a pas les moyens d'assurer la subsistance du foyer. Mahomet a eu 10 à 12 femmes, mais... le roi Salomon a eu 300 femmes et 700 concubines, c'est-à-dire des femmes de deuxième rang. Voilà. Comment ? Non. Eh bien, vous avez aussi les harems turcs qui étaient impressionnants. Eh bien, voyez-vous, cela est contraire à la véritable charité. Vous n'aimerez pas plusieurs femmes. Mais ça, c'est la polygamie. Instantané, mais la polygamie successive n'est pas aussi de l'amour. Or, de nos jours, du fait du divorce, nous sommes polygames, ou polyandres. Les femmes ont plusieurs hommes dans leur vie, les hommes ont plusieurs femmes dans leur vie. Donc on peut toujours se moquer des bédouins. Faire attention, d'autant plus que le divorce, par consentement mutuel, c'est plus parfois de la répudiation. Il y en a un des deux qui veut partir. Et l'autre, rares sont les cas où finalement les deux disent de commun accord, on se quitte. De toute façon, c'est immoral. C'est faux. Quand on s'est vraiment marié, on souffrira toujours de s'être séparé. On sait très bien que notre première femme vit toujours, que notre premier mari vit toujours. Mais étant donné que l'atmosphère de la société est très opposée à cette fidélité et à cette unité, on vous dit, si vous n'êtes pas d'accord, assumez et ne vous faites pas un mariage religieux. Si vous envisagez un jour de changer de mari ou de changer d'épouse, ne vous mariez pas religieusement. Restez en concubinage si vous êtes en concubinage, ou ne vous mariez pas si vous faites la cour sans vivre ensemble. C'est n'allez pas tenter la beauté du couple. Restez dans cette indécision. Nous refusons de vous, si vous voulez, de reconnaître votre amour comme plénier.
Et concernant les veufs et les veuves,
Eh bien, c'est ce que je vous disais la dernière fois, et c'est ce qui est une réalité qui est un peu forte, et que même des prêtres n'arrivent pas à saisir de nos jours, à cause du sentimentalisme ambiant, c'est que le mariage est une réalité temporelle, terrestre. C'est-à-dire que si notre époux ou notre épouse meurt, on est libre. C'est la mort qui dissout le mariage. Dans la vie éternelle, si vous avez été marié, marié, c'est-à-dire promesse à la vie et à la mort, deux fois ou trois fois. Les pharisiens proposent sept fois à notre Seigneur. Une femme qui a été mariée sept fois, elle dit alors dans la vie éternelle. Alors non, c'est des pharisiens, c'est pas, c'est des sadducéens. Comprenez bien. Dans l'Ancien Testament, il était très important d'avoir une descendance. Donc Moïse avait permis à une femme qui mourait, dont le mari mourait sans lui avoir donné d'enfant, d'avoir le droit de demander à son frère de se marier avec elle, pour que le nom de la famille du mari mort, puisque c'était son frère, donne un enfant à cette femme. Ça s'appelle la loi du lévirat. Et si cet homme ne voulait pas épouser sa belle-sœur, eh bien, on lui jetait comment dire, une chaussure à la figure, une chausse à la figure, pour montrer qu'il était, qu'il ne respectait pas la fierté d'avoir une descendance pour cette femme, et qu'elle dé il déshonorait quelque peu sa belle-sœur.
Et s'il était déjà marié?
Eh bien, il était polygame. Pas de problème. Ben oui, vous aurez remarqué que les juifs ne sont plus polygames. Ils peuvent l'être. Mais c'est très rare hein, qu'ils le soient. C'est même. Peut-être dans certains kibboutz au fin fond d'Israël, peut-être que des hommes prennent deux femmes ou trois femmes. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas de divorce. Il y a de la répudiation. Et donc actuellement. Quand une femme juive veut se séparer de son mari, qu'il se sépare, lui, religieusement, il peut, si lui n'était pas consentant à ce divorce et qu'il a été plus ou moins contraint à ce divorce civil, au point de vue religieux, parce que le mariage religieux est toujours indépendant du divorce civil, hein. C'est une séparation de corps tamponnée par le fisc. Eh bien, si l'homme ne veut pas répudier sa femme devant le rabbin, elle est toujours mariée avec lui. La femme, elle, ne peut pas partir. Lui peut partir. Il la répudie, enfin, devant le rabbin, et dit, c'est plus ma femme, c'est plus sa femme. Et, ah, ça, c'est l'Ancien Testament. Oui. On ne fait pas trop d'analyse, hein, vous avez remarqué dans les émissions sur le... Non. Mais c'est ça, hein, la réalité. Alors, cette femme, le frère de son mari, l'épouse. Et il meurt. Ils étaient sept frères. Et elle épouse chacun des sept frères. Le septième meurt. Non. Et puis elle meurt. Bon, tout le monde meurt. Et alors, les Sadducéens ne croyaient plus en la résurrection des morts. Ils ne croyaient même pas que l'âme survivent à la mort. Ils pensaient qu'on était anéantis comme les animaux, que la vie terrestre était la seule vie humaine. Et donc, c'était une hérésie. Et donc, les pharisiens, qui eux étaient orthodoxes dans la foi juive, détestaient tellement Jésus qu'ils ont demandé aux sadducéens de poser cette question à Jésus, pour l'embêter. De qui sera-t-elle la femme après la mort, puisqu'elle a eu sept maris. Et là, Jésus leur dit, mais vous êtes dans l'erreur, dans la vie éternelle, on n'est pas marié, on est comme les anges de Dieu. Boum. C'est-à-dire qu'après la mort, vous ne serez plus marié et femme. Ne restera que votre amour, mais ne restera pas le mot mariage. C'est-à-dire que si vous avez aimé une femme, très sincèrement, qu'elle est morte, que la solitude vous a pesé, et qu'au bout de 5 ans vous êtes marié une deuxième fois, en vous disant « Est-ce que je trahis ma première femme ?» Eh bien, vous pourrez trouver un prêtre très légaliste et très, très théologien qui vous dira « Mais si vous arrivez à aimer personne par personne comme des parents aiment leurs enfants, eh bien, vous pourrez vous marier. » Il y a une belle histoire américaine, qui est une histoire vraie d'ailleurs, mais c'est américain, les Américains, c'est ou Walt Disney, ou un film de guerre, mais si vous voulez, c'est très caricatural. Hein. Voilà cet homme qui a sa femme qui a un cancer, je crois qu'il est avec un ou deux enfants, elle meurt. Et puis voilà, il a deux petits, non, il avait deux enfants de 3 ans et 5 ans. Et il se remarie. Mais il se remarie, donc vous voyez, parce que la solitude est difficile à l'homme, mais aussi pour une mère, pour ses enfants. On me dirait, s'il veut une infirmière simplement, ou une babysitter, donc il faut aussi qu'il l'aime. Oui, il l'aime. Mais la loi naturelle, elle est très forte. Il est bon que les deux petits-enfants aient une maman. Et voilà que le notaire arrive et lui dit « J'ai une lettre pour vous. De votre première femme qui m'avait demandé de ne vous la donner que si que le du jour où vous remarieriez. » Ah oui, il ouvre cette lettre et sa femme avait écrit une très belle lettre en lui disant « Je te bénis d'avoir eu le courage de te remarier, comment dire, sois heureux. Moi, je suis auprès de Dieu dans la vie éternelle et tout ça, je prie pour toi et il faut que tu, que tu puisses donner une maman à nos deux enfants et tout ça, enfin, et que tu sois heureux sur cette terre. » Vous voyez, c'est très joli, hein. Eh bien, dans la vie éternelle, en effet, on est, on aime cette personne et cette personne. On aime sa mère, on aime son père, on aime sa première femme, on aime ses enfants, on aime éventuellement une deuxième femme. Et ensuite, on a l'éternité pour connaître et aimer d'autres personnes. Mais on aura sans doute des belles préférences, des vraies préférences. Parce qu'on ne pourra pas. N'oubliez pas que notre mémoire n'est pas effacée par la mort. Aussi bien notre mémoire du bien que du mal. Mais le mal regretté ne nous pèse absolument pas. Vous voyez, dans la vie éternelle. Mais on n'est pas lobotomisé. Toute notre vie humaine est en continuité. Donc tout ce qu'on a fait sur Terre, on le sait après. Enfin, on n'est pas... Et donc, bon, mais on, si vous voulez, comme sincèrement on l'a regretté, ça ne nous pique pas. Parce qu'on est dans la vérité. Eh bien, moi je vous souhaite de ne pas être veuf tout de suite, voilà. Et c'est comme les femmes vivent en général plus longtemps que les hommes, c'est... Quand vous avez un voyage de troisième âge, vous avez 90 vieilles dames et 10 bons hommes. Ils sont là. Bon. La fidélité et l'unité. Alors, on va poser les questions des psychiatres, des psychanalystes. Très drôle. Hein. Mais je n'ai pas pu ne pas prendre quand même certains questionnaires de préparation au mariage. À la mort, moi le nœud. Et donc, on va quand même les lire parce qu'il y a quelque chose de vrai en général, mais pas tout à fait faux. Liberté et don de soi. Vous les avez ?
Non.
Attendez. Je vais louer ceux qui ne les ont pas.
Non, mais on a vu ce film.
Voilà. C'est page 3. L'amour s'exprime dans la liberté, le don de soi. Cette liberté se réalise dans un choix de vie pour mieux se donner à l'autre. Alors, attention, accrochez-vous. Est-ce que j'ose être moi-même? Est-ce que je suis ce que je suis? Donc oui, ben, j'espère, vous n'avez pas une personnalité schizophrénique. Voilà. Il paraît que pour soigner la schizophrénie, il faut parler à chacun de nos personnages. Hein, mais franchement. Hein. Voilà. Est-ce que je me sens libre du regard des autres? Bon, ce sont des questions de psychologue, hein. Mais bon, c'est pas négligeable, hein, de nos jours surtout, parce que ça peut se dire avec des mots anciens, des réalités anciennes. Hein, c'est de, est-ce qu'on a peur du qu'en dira-t-on? Est-ce qu'on a peur d'affirmer ce que l'on croit vrai? Est-ce que, par exemple, dans les convictions politiques, je peux vous assurer que si vous avez des convictions politiques pas forcément politiquement correctes, au travail, vous n'allez pas les étaler. Hein, est-ce que je me donne la permission, bon, c'est beau ça, d'avoir une vie intérieure personnelle, ou est-ce que je communique tout à l'autre, et pourquoi? Le jardin secret. Et une vie intérieure personnelle, c'est-à-dire le jardin de votre conscience. Mais vous pouvez très bien communiquer à l'autre tout ce que vous croyez vrai en conscience. Mais, si vous voulez, c'est au cas par cas de tout dire, de tout révéler, parce que il y a d'autres choses que nous allons voir. Aimer l'autre demande de s'aimer soi-même, et pour s'aimer, il est bon de savoir progressivement qui l'on est. Quel est le sens de sa vie? Osons rechercher la vérité sur soi-même pour mieux aimer l'autre. En effet, pour aimer les autres, il faut avoir un minimum d'estime de soi. C'est vrai. Mais ce minimum peut être petit. On peut être très heureux d'être aimé par les autres. Quels sont les domaines qui me passionnent? Là, c'est qui êtes-vous? Donc là, on va faire, comme dans les Alcooliques Anonymes. Je m'appelle Marc, je suis alcoolique, ça fait 2 ans. Donc, on dit son prénom, on avoue ce qu'on est, et depuis combien de temps on essaye de ne pas l'être. Ça fait 2 ans que je ne me suis pas saoulé. Voilà. Donc ça c'est le système des alcooliques anonymes. Alors, dans un système plus naturel, on ne vous demande pas de vous mettre à nu totalement. On vous demande d'avoir un minimum de connaissances de vous-même. Vous voyez, savoir si vous préférez vous promener, ou aller au musée, ou aller dans un concert de musique de chambre, ou de rock, ou de jazz, ou de nos jours aussi de variété, puisque qu'est-ce qui a le plus de succès actuellement si ce n'est la musique de variété? Mais bon. Il y a des personnes qui aiment le jazz, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Le rock metal, ben, il y faut une raison, hein, en général. En général, c'est qu'on veut ne plus penser, ça permet de plus penser. Le death metal permet de ne plus être, c'est encore mieux. Pourquoi on appelle ça le death metal? C'est parce qu'on a retrouvé des personnes s'étant endormies en écoutant du death metal et qui sont mortes pendant la nuit. Alors le death metal, c'est très particulier. En général, on a l'impression que c'est simplement une roue déjantée qui frotte sur du béton. On peut écouter ça pendant des heures. Voilà. Mais quels sont les domaines qui vous passionnent? La musique, l'histoire, le chant, le sport, les performances sportives, les besoins d'absolu, est-ce qu'on a des... Si vous aimez l'alpinisme, si vous aimez le football dans la tactique des entraîneurs les plus ou la dextérité de telle ou telle passe et autres, ou si vous voilà, mais là c'est très varié, mais ça peut être très sérieux. Mais en général, si vous êtes ensemble maintenant, c'est que les domaines qui vous passionnent ne sont pas trop éloignés. Y a-t-il des aspirations profondes qui sommeillent en moi et que je n'ai pu développer? Et vous avez toujours voulu être tueur à gages. C'est tellement drôle de partir le soir, dire « je vais me promener » et en fait, vous avez la photo, vous avez l'adresse et tout. Et vous revenez, comme ça, tranquille. Qu'est-ce que t'as... Alors, oh non, c'est bon. Je vais aller promener le chien. Voilà. Ne dites jamais un tueur à gages, descends le chien. Voilà. Suis-je heureux? Travail, loisirs, vie professionnelle. Ça, on développera un peu plus loin, une autre fois. Mais là, c'est le bonheur... Avant le mariage, on va voir ce que la vie professionnelle pendant le mariage peut impliquer. Mais ça, on va enfoncer des portes ouvertes puisqu'on en parle énormément de nos jours. Les rythmes de vie. Enfin, moi, j'ai discuté avec un banquier aujourd'hui qui me dit que c'est dans certaines entreprises, c'est absolument c'est fou, quoi. C'est pas normal. Si on fait des surmenages, c'est presque nécessaire. Enfin, corporellement, c'est des rythmes. On n'a pas le droit à la coupure, comment on appelle ça? La coupure numérique. Le fait de ne pas avoir à regarder ses mails après les heures de travail. Enfin, dites ça à un avocat qui est à son propre compte. Il va dire à ses clients, à partir de 22h, il va partir. Mais bon... Peut-être qu'il serait plus efficace. Alors, comment cela se manifeste-t-il? Est-ce que vous avez choisi votre métier? Vous l'appréciez? Vous avez choisi vos études? Quelle est ma propre définition du bonheur? Là, on entre dans la philosophie de Philosophie Magazine. Et qu'est-ce qui me fait vivre aujourd'hui? Ah oui. Voilà. Lors de quelles circonstances ai-je été le ou la plus touché par la beauté ou la grandeur de la vie? La première fois que vous avez vu une orchidée. Alors, je me moque, hein, mais vous pourrez quand même relire ces questions tranquillement. Il y a des choses qui peuvent vous faire réfléchir. Qu'est-ce que j'aime en moi? Sans orgueil, mais avec fierté. Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je n'aime pas en moi? Quels sont les défauts qui me pèsent? J'aimerais corriger. Alors, dans la vie spirituelle, justement, et dans la prière, on demande à Dieu de nous aider à ne plus avoir ces défauts. Comme les gens ne croient plus et ne prient plus, ben, on est face à nos qualités, à nos défauts, comme un bœuf, quoi. On les subit. Nos qualités, ben, tant mieux, mais on ne les grandit pas, on ne les affine pas, et nos défauts, on les laisse, tranquilles. Il n'y a pas de combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à répondre devant quiconque. Or, c'est faux. Vous devrez répondre de votre vie devant celui qui vous a créé, qui vous a aimé. Comme pendant des années, vous avez aimé, plus ou moins, mais rendre compte de votre journée à vos parents. Parce que ce sont des êtres qui vous aiment, qui s'intéressent à vous. Et que vous avez ressenti ce besoin de leur dire ce qui vous est arrivé dans la journée. Et vous en souvenez plus qu'à 4 ans, vous étiez tout content du matin. Voilà. Bon, au bout d'un certain temps, si vous n'avez pas de bonnes notes à l'école, vous n'êtes pas forcément très heureux d'aller avec votre carnet de notes le soir en disant J'ai eu 3 sur 20. Voilà. Mais, voyez-vous, c'est, comment dire, rendre compte n'est pas forcément s'humilier. Et quand vous avez des enfants qui ne sont pas très bons élèves, et des parents qui vous stimulent mais qui ne vous écrasent pas, ben, y aura une vérité. On présente ses résultats, on dit ben non, ben j'y arrive pas, tout ça, bon, ben on va voir, je vais t'aider, on va trouver quelqu'un pour t'aider. Enfin, voilà. Mais quand on est adulte, c'est directement Dieu qui est celui à qui on rend compte de notre journée, de nos aspirations. Et c'est vrai, il existe, il vous écoute. C'est votre père, c'est votre frère en Jésus. Dieu est un être d'amour éternel qui a envoyé sa pensée, sa réflexion, sa parole pour s'unir à un être humain. Et il n'y a pas deux dieux. Le Père et le Fils ne font qu'un. Mais en soi, c'est son expression de son éternité, de son amour, qu'il appelle son Fils, qui s'est uni. Ce qui fait que Jésus, lorsqu'il prie, il dit en vérité « Père ». Père, parce que il rend gloire à l'être éternel dont il est l'expression absolue et identique, puisqu'il est la pensée et la parole du Père, et aussi en tant qu'homme, parce que là il est plus fils en tant que dans la nature humaine créée. Mais sa nature divine, qui n'est pas séparée de la nature du Père, elle est unique. Alors vous allez me dire, mais alors, pourquoi vous compliquez à 3 personnes ? Bien parce que il y a une relation en Dieu, de Père à Fils et de Fils à Père, par l'expression. Dieu se dit de toute éternité, il se raconte, il se parle, il parle de toute éternité. Et il appelle sa parole son Fils. Parce que sa parole parle du Père, parle de Dieu. Mais qu'y a-t-il de différence substantielle entre notre pensée et nous-mêmes ? Ben rien. Mais pourtant, le fait de penser et le fait de parler est quand même quelque chose. Est une expression. Eh bien, vous allez me dire, comme je vous l'avais déjà dit, mais c'est narcissique alors l'amour du Père et du Fils. Non. Dieu est expression et Dieu est infiniment beau, infiniment aimable. Donc l'amour jaillit de sa vie et cette relation d'amour en Dieu crée les anges, la matière, la nature humaine. La nature animale, la nature humaine, enfin elle est féconde, cette vie divine. Donc nous, qu'est-ce qui nous fait vivre? Quelles sont nos joies?